notre invité.
Yes, sir.
Renaud Brossard de l'Institut économique de Montréal. Renaud, comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Oui, ça va bien. Et Renaud, t'es-tu inquiet de voir ça, le recul de la transparence? On veut plus avoir, on veut pas que les journalistes ou les médias aient accès aux courriels, aux textos des politiciens. On a des alertes de transparence sur Mark Carney. Comment tu vois ça?
Bien, honnêtement, je suis inquiet, mais ça ne m'étonne pas. Puis c'est quelque chose que je remarque depuis plusieurs années, que ce soit à l'IEDM ou avant ma carrière. J'ai quand même fait beaucoup de demandes d'accès à l'information. Puis je peux te dire que ce que tu disais, tu sais, souvent, il faut les avocats qui rentrent là-dedans, puis on soit quand même du stock à verder. C'est exactement l'expérience que j'ai. C'est plus souvent qu'autrement. Je veux dire, on a cette loi sur l'accès aux documents, mais réellement, c'est l'accès à certains documents, seulement dans certaines conditions, et que l'accès est vraiment très, très, très déficient. Ça ne m'étonne pas de voir que malheureusement, les politiciens essaient encore de réduire l'accès à leurs documents et à leurs communications. C'est décevant. C'est une mauvaise chose. Mais malheureusement, ça me surprend pas.
Ouais, mais là, tu sais, t'as des projets de loi C-22 et autres. Là, on est en train carrément d'imiter un modèle qui est un peu comme le modèle chinois. Dangereux, ça?
C'est dangereux, mais je dirais aussi, un des enjeux, c'est que nos lois d'accès aux documents, hein, ils datent de tellement longtemps qu'ils sont plus à jour. Puis déjà, je veux dire, pour beaucoup de fonctionnaires, une des premières choses qu'ils font apprendre quand vient le temps de parler d'accès aux documents, c'est qu'est-ce qu'on met dans les courriels puis qu'est-ce qu'on met pas dans les courriels. Qu'est-ce qu'on dit par téléphone, à l'oral, parce qu'il n'y a plus de trace écrite après. Qu'est-ce qu'on dit dans des messages sur Teams, parce que là, c'est peut-être plus difficile de les avoir, il y a un flou. C'est malheureux, mais depuis le temps où on a passé nos droits d'accès aux documents, on a eu l'Internet qui est arrivé, on a eu d'autres outils, et malheureusement, on n'a jamais vraiment adapté les lois, sauf récemment, malheureusement, pour essayer de restreindre encore un peu l'accès. C'est quand c'est pas les jugements qui ont restreint l'accès. Une des choses que je trouve les plus aberrantes, c'est qu'au Québec, on a un jugement qui avait été fait autour de 2008 là, sur l'accès aux factures. Dans toutes les provinces, dans toutes les autres provinces, si je veux accéder aux factures d'un haut fonctionnaire, parce que je pense qu'il y a peut-être des irrégularités.
Ou d'un élu.
Je peux les demander, puis je peux les accéder. Ou d'un élu, effectivement. Je peux les demander, je peux y accéder. Au Québec, on n'a pas le droit. En général, c'est bloqué. En général, en fait, les organismes publics vont dire non, on peut vous montrer c'est quoi le montant total du compte de dépenses, mais on peut pas vous dire c'est quoi le détail de chacune des factures. Moi, je regarde dans une autre carrière, j'avais demandé les factures d'élus à Charlottetown. J'avais pu découvrir, en regardant leurs factures, qu'il y en avait qui avaient facturé jusqu'à 8 repas dans la même journée. Parce que, bon, il y allait à une conférence où les repas étaient fournis. Ensuite, ils prenaient leur per diem, donc une allocation au repas pour chacun des repas, et après ça, ils soumettaient leurs factures. J'aurais jamais pu découvrir ça. Je n'ai pas pu avoir accès aux factures. Je n'avais pas pu avoir accès à ces détails-là. Malheureusement, au Québec, on n'a pas cette opportunité-là. Les factures restent généralement, ne sont pas communiquées par les organismes. Fait que ce manque de transparence-là, je dois avouer, je suis un peu résigné peut-être, parce que ça fait des années que je vois ça avec les demandes d'accès aux documents, mais ce manque de transparence-là, malheureusement, je suis pas étonné.
Ben, écoute, c'est Mathieu Boivin, à l'époque, qui était au Journal de Montréal, il avait demandé les factures de la vérification. C'est la lieutenant-gouverneur Lise Thibault. Et il avait demandé les factures à Québec, parce que Québec autorisait les dépenses. Il n'avait pas eu accès aux factures, mais il avait été par le fédéral. Et il avait eu accès aux factures, et c'est là qu'on voyait qu'elle surfacturait des repas.
Puis on l'a vu, ça a été une grosse enquête. Puis ça, c'est le résultat de demande d'accès aux documents. Je veux dire, ça fait toute la différence. Puis comme tu disais, c'est une des choses qui fait en sorte que les journalistes peuvent faire leur travail.
Exact.
Puis sortir le genre de scandale qui peut faire une différence après ça dans la gestion des fonds publics. Parce qu'après ça, on regarde un peu plus, on regarde qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, quand on a un scandale de dépenses qui sort, évidemment, les politiciens et les fonctionnaires se tiennent un peu plus les fesses serrées pendant une couple de semaines après.
Et là, tu as des politiciens. On a eu le maire Marchand cette semaine qui nous dit... Mais là, je suis pas sûr. Les gros projets, on n'est pas obligé de donner les montants. c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent tout avoir. Ils veulent le cash. Ils veulent arriver à la fin avec des projets qui nous avaient dit 3 milliards, ça va être 15 milliards. Puis pas de problème, vous avez un passe-droit complet.
Mais en fait, c'est parce qu'il veut pas nous dire que c'est 3 milliards. C'est le bout qu'il veut oublier. Mais effectivement, c'est très problématique. Je veux dire, le fait de savoir c'est quoi le coût d'un projet, c'est quelque chose qui aide à évaluer si c'est un bon projet ou pas. Je dois avouer, peut-être que je suis vieux jeu, peut-être que je suis un peu naïf, mais moi, je pense que c'est le genre d'informations auxquelles la population devrait avoir accès. Puis c'est ça qui permet de faire des décisions éclairées. Je regarde, moi, je suis dans les rénovations chez moi présentement. Je veux dire, si on me demandait la question, veux-tu faire refaire ta salle de bain? Ben oui, ça me tente de faire refaire ma salle de bain. Mais est-ce que je veux refaire ma salle de bain à 10 000 $ ou est-ce que je veux faire refaire ma salle de bain à 50 000 $? La réponse entre les deux va être très différente. Quand on prend des décisions, on les analyse en fonction du coût. Cette idée de dire, écoutez, on va commencer à parler du tramway, voici où ça va aller, mais on ne va pas sortir de coût tout de suite.
Mais ça, c'est capoté.
C'est un travail de vente, c'est pas un travail d'information du public quand on fait ça. Puis c'est correct après ça de dire, bon, est-ce que le projet en vaut la peine? Voici pourquoi ça vaut la peine, mais il faut faire une analyse coût-bénéfice. Et on ne peut pas faire une analyse coût-bénéfice si on parle juste des bénéfices puis qu'on oublie de parler des coûts.
Oui, mais là, tu gères l'argent du monde. Il ne faut pas t'oublier ça dans l'équation. Ça ne te tente pas. Change de job, là.
Ben exactement. Exactement. Puis c'est vraiment un élément essentiel de ta prise de décision. Ben, tu fais une analyse coût-bénéfice. Tu regardes, est-ce que ça vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que sinon, ben, on se ramasse avec des projets qui sont bâtis, puis on se ramasse avec d'énormes éléphants blancs. C'est pour ça qu'on parle autant de coûts. Puis c'est vrai. Je veux dire, le maire a raison sur un point, souvent, quand on propose le projet puis qu'on voit le prix à la fin pour le projet, il y a une grande différence. Mais une des sources de cette différence-là, c'est le fait que dans la gestion de projet, bien là, de temps en temps, il y a un policier qui va arriver qui va dire « Hey, tu sais quoi? Il faudrait qu'on rajoute une station-là. » Mais ça rajoute des coûts quand c'est imprévu. C'est les fameux extras dont on parlait. Ou des fois, un fonctionnaire va dire « Hey, au début, quand j'avais fait le calcul, moi, je pensais que on pourrait passer par telle rue, mais finalement, cette rue-là, pour X, Y, Z raison, on ne peut pas, c'est ça. Ça fait monter le coût. Mais c'est normal qu'il y ait ce genre de choses-là. Mais il faudrait qu'il y ait un peu plus de transparence. Puis si le maire veut que le coût publicité pour le projet soit plus proche du coût réel du projet, il faut juste faire un meilleur job de planification. Je regarde là un exemple historique, là. Début des années 2000, Montréal veut prolonger la ligne orange du métro, rajouter une couple de stations à Laval. À l'époque, écoutez, il avait fait de l'estimation de coût sur 4 km. Malheureusement, leur projet faisait 5 km. C'est sûr qu'il y aura des dépassements de coûts par rapport à ça, mais ça montre le manque de compétences des gens qui font ces estimations-là et sérieusement, le besoin pour un meilleur contrôle, une meilleure gestion au niveau de... au niveau de ces organismes-là, pour ne pas avoir des cas où on a des dépassements de coûts absolument énormes de manière systématique.
Voilà. Autre chose qui fait beaucoup jaser, bien, regarde, le TGV. Là, le TGV, on le voit, là, on commence à ajouter des stations. Là. On a parlé de Kingston. Là, on parle de Mirabel. On va peut-être faire un arrêt là pour essayer de faire avaler la pilule. Là, finalement, ce qui devait durer quoi? On parle de 2h30. Québec-Montréal. En voiture, on le fait en 2h30. Là. Est-ce qu'il va y avoir vraiment une économie de temps?
C'est pas clair. C'est parce qu'un des enjeux qui est souvent oublié quand on parle de ça, c'est qu'on dit que ça prend 2h, 2h30 de station à station. Donc, si tu pars de la gare du Palais pour te rendre à la gare centrale, ça va te prendre 2h, 2h30. C'est bien beau, mais faut que tu te rendes à la gare du Palais. Ça, c'est du temps. Faut que tu te rendes après ça de la gare centrale jusque là où tu veux t'en aller. Je fais le trajet Montréal-Québec une couple de fois dans l'année.
Ouais.
Ben, mine de rien, il y a des fois où, ben oui, ça va être plus rapide en voiture qu'en train ou avec n'importe quel autre moyen de transport. Parce que, justement, il y a tout ce temps de déplacement qu'on n'inclut pas avant ça. Le fait de se rendre à la station, ben, ça prend du temps. Le fait de se rendre de la station jusqu'à la destination, ça prend du temps. Parce que sans voiture, tu le fais du point A jusqu'au point B.
Oui, c'est ça. Puis ça dure, mettons, 2 heures. Des fois, c'est 2h30, là, Québec-Montréal, là, d'un point A à un point B. Là, tu te rends à ta station station du TGV, une demi-heure avant, des fois trois quarts d'heure avant, puis là, de partir de la station, puis partir dans un taxi, puis dès là, on ne sait même pas si ça va être Laval ou Québec. Beaucoup de points d'interrogation hein, par rapport à ça.
C'est ça. Je pense à l'exemple de Montréal-Ottawa, puis écoute, ça va se faire en 2 heures au lieu de à peu près 1h45, 2 heures. Ça va se faire en 1 heure au lieu d'une 1h45, 2 heures quand tu prends l'auto. Mais en 1 heure, écoute, se rendre à la gare centrale, ça me prend probablement une demi-heure.
Ouais, exactement.
Et après ça, me rendre jusqu'à ma destination, ça prend un 15-20 minutes. Essentiellement, est-ce que ça vaut la peine de dépenser quoi, 100 milliards de dollars pour se trouver...
Bien là, 100 milliards, on parle peut-être plus de 150 puis 200 milliards. Là, on ajoute des coûts, là.
Ben oui, puis genre, je prenais l'estimation très optimiste, Mais c'est vraiment un enjeu. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est que quand vient le temps de gérer les fonds publics comme ça, c'est là où on voit que c'est ce que ça donne quand c'est pas son argent qu'on dépense.
Ah, c'est ça.
Parce que je suis sûr, tu sais, pour revenir un peu sur la filière batterie, François Legault disait, ben oui, moi, j'ai pris des risques à l'époque quand j'ai fondé Cravate. C'est vrai, il a pris des risques, il l'a fait avec son argent. Quand il a mis de l'argent dans Northvolt, il l'a pas fait avec son argent.
Ouais, puis.
Et on voit que les résultats sont très différents parce que les incitations sont différentes. Si on me dit que demain matin, je peux acheter quelque chose pour moi, mais je le fais avec le portefeuille de mon voisin, je vais avouer que je vais bien moins me préoccuper du coût. C'est normal.
Mais tu regardes, dans le cas de Northvolt, là, aucune note. On sait même pas c'était quoi les conversations au Conseil des ministres. Aucune note laissée pour les fins des archives. Donc, ces gens-là, ils ont joué vraiment une game qu'ils savaient qu'ils jouaient. Là. C'est-à-dire qu'on misait des milliards de dollars de fonds publics à risque, puis on n'a laissé aucune note pour laisser sous-entendre dans quoi on investissait.
Ben, c'est pas la première fois que ça arrive non plus avec les subventions. Puis ça vient d'un autre enjeu avec l'accès aux documents. C'est que tout ce qui est considéré comme un conseil au ministre, c'est pas accessible pour 25 ans. Fait que si on veut savoir essentiellement... C'est quoi les conseils qui avaient été donnés à Fitzgibbon à l'époque ou à Christine Fréchette avec les subventions les plus récentes?
C'est pas accessible.
Ben, essentiellement, on va pouvoir le savoir dans 25 ans quand personne ne va s'en préoccuper. Fait que c'est vraiment il y a un enjeu d'un point de vue de gestion des documents, puis il y a un enjeu de point de vue, malheureusement, de gestion des grands projets où il n'y a pas d'incitation pour avoir un suivi des coûts qui est intéressant.
Donc, ce que tu me dis, c'est qu'on dans le cas de Northvolt, on ne saura pas avant 25 ans ce qui s'est dit autour de la table au Conseil des ministres.
Mais malheureusement, non. À moins que ça sorte un jour, mais malheureusement, si on suit la loi sur l'accès aux documents, ça en prendra 25 ans.
Renaud Brossard de l'Institut économique de Montréal, vous êtes salué. Bonne Saint-Jean, salut.
Ben merci. Bonne Saint-Jean.
Voilà. Ouais. Hey, 25 ans avant de savoir, dans le cas de Northvolt, qu'est-ce qui s'est dit autour de la table, puis comment, qui a recommandé quoi?
Mais dans 25 ans, il n'y a pas personne qui va repenser à ça, qui va penser de demander des documents.
Voilà,
ça n'arrivera pas.
On ne sera plus là.
Comment s'auto-protéger?
Ben oui, mais surtout. Puis aucune note, là. Aucune note. Dans le cas de la COVID aussi, là.
À rien.
Des notes. Comment on prenait les décisions? La messe de. C'était la messe de quoi? 13h? Puis la messe de 17h?
Oui, les fameuses conférences de presse.
Puis là, on prenait des décisions. On s'accotait sur quoi? Dans 25 ans, Louis.
On s'accotait sur quoi? Mais je pense que même quand on va savoir, on s'accotait sur quoi, il va avoir rien.
Non, c'est ça. Voilà. Bon, ben après la pause, on jase de politique. On est bon pour ça?
D'après moi, oui.
On vient.
Coup sûr dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Hey boy.
Radio X.